Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes. Everybody goes crying, no, crying,
no. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107FM, nous sommes le lundi 8 janvier, il est exactement 8h36, à la technique avec moi Léo, bonjour Léo.
Et bonjour Ben.
Ouais, je voulais pas te surprendre mais je t'ai surpris quand même.
Ça me surprend à chaque fois de toute façon.
Bienvenue mon Léo, ça fait plaisir de se retrouver après ces 3 semaines quasiment sans matinale. Et au programme de cette matinale, nous sommes en direct en plateau avec Joséphine Ponel, c'est comme ça qu'on dit.
Ponel, oui.
Ponel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière pour l'espace des aidants de la plateforme de répit de Lozère et vous organisez des ateliers à partir du 18 janvier ici à Florac. Sujet ô combien important, je suis ravie de vous avoir à cette antenne. On parle de ces personnes ô combien importantes, les aidants, les aidantes, avec vous dans quelques minutes. Et en deuxième partie d'émission, j'étais samedi à la super inauguration du stade de foot de Florac. On verra ce que ça va donner tout à l'heure. Il y aura de la musique, comme d'hab, et mon Léo, si t'es prêt, on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Eh bien justement, allons-y et parlons des aidants et des aidantes. Il y a une étude qui est sortie en février 2023, réalisée par la DRES, la Direction de la Recherche des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, qui est une direction de l'Administration Centrale des Ministères Sanitaires et Sociaux. Et selon cette étude, en France, en 2021, on comptait 9,3 millions de personnes qui déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie, que cette personne vive dans le même logement ou ailleurs. Cette aide peut prendre la forme d'une aide aux activités de la vie quotidienne, d'un soutien moral ou, pour les adultes, d'un soutien financier. Ainsi, on compte 8,8 millions d'adultes et 500 000 mineurs de 5 ans ou plus qui sont proches aidants. Près d'une personne sur 4 de 55 à moins de 65 ans se déclare proche aidant. La part de ces derniers augmente avec l'âge jusqu'aux alentours de 60 ans, puis tend à décroître ensuite. Les femmes déclarent plus souvent apporter une aide régulière dans les activités de la vie quotidienne ou un soutien moral, alors que les hommes apportent plus souvent une aide financière. Joséphine, voilà pour ces quelques chiffres. Hein. Plus de 9 millions de personnes en France qui déclarent aider, ça représente quand même énormément de personnes. Est-ce que selon vous, elles sont assez prises en compte, ces personnes ?
Non, forcément, elles ne sont pas assez prises en compte. Et puis la chose là qui est très importante, c'est qu'elles ne se reconnaissent pas forcément comme aidantes. Là, on parle de chiffres et ça représente énormément de personnes. Et il y a plein d'aidants qui ne savent pas du tout qu'ils sont aidants, qui estiment que c'est normal, naturel d'apporter une aide à son conjoint, à son parent, et qui ne savent pas qu'ils ont quelques droits qui ne sont pas encore assez développés, certes, mais qui existent. Et du coup, c'est vraiment des personnes nombreuses, importantes et dont il faut parler.
Et bien justement, on est là pour ça et on va continuer dans un instant à parler des aidants. Alors je vais vous demander de mettre le casque justement parce que on va écouter une chanson que j'ai trouvée en fin de semaine dernière qui est réalisée justement par des aidants et des aidantes et on en reparle juste après.
Tu le ferais si c'est moi qui est tombé, qui est tombé. Mon chemin désormais c'est le tien, c'est le tien, c'est le tien,
c'est un peu comme toute histoire, tout allait bien, la vie était belle.
Puis le coup près tombe, un cauchemar, une maladie, un choc émotionnel.
Cet accident, ce coup du sort, tu perds l'usage de la tête ou du corps.
Un éclair qui brise le miroir, ne laissant que des morceaux de mémoire.
Incompréhension, question, pleurs, on résiste, ça déchire le cœur.
Accepter l'autre comme il est, tourner la page de ce qu'on était.
Les jours, les mois, les années, se battre pour être accompagné.
Désert médical, errance, lutter pour les soins, la reconnaissance.
C'est un peu le mythe de Cassandre, ceux qu'on refuse de voir ou d'entendre et qu'on laisse dans le silence d'une chambre.
Partager le bon, le mauvais,
on se comprend sans même se parler.
Mon chemin désormais c'est le tien,
tu le ferais si c'est moi qui tombais.
Partager le bon, le mauvais,
on se comprend sans même se parler.
Mon chemin désormais c'est le tien,
tu le ferais si c'est moi qui tombais.
Un appel pour prendre des nouvelles, nos familles, nos enfants, nos merveilles.
Des amis qui restent encore, même si la solitude nous dévore.
Dans la brume, un rayon de soleil,
l'apparence d'un voile qui se lève.
Une balade, un livre, la nature, une chanson, une expo de peinture.
De tout ce qui nous rendait heureux, je fais avec ce qui reste. Gardez le plus précieux, profitez d'un regard, d'un geste.
Les regards sur comment tu marches, comment tu manges, comment tu parles. L'ignorance, la méchanceté, c'est encore ça de plus à supporter.
Partagez le bon, le mauvais.
On se comprend sans même se parler.
Mon chemin désormais c'est le tien.
Tu le ferais si c'est moi qui tombais.
Partagez le bon, le mauvais.
On se comprend sans même se parler.
Mon chemin désormais c'est le tien.
Tu le ferais si c'est moi qui tombais.
À longueur de temps, tenir, c'est tellement épuisant.
Toujours avoir à s'adapter avec l'amour pour nous guider.
Comment est-ce possible de faire sans toi? Dans ton fauteuil, tu es toujours là.
Tu m'offres encore ces instants d'éternité qui me donnent le courage de continuer.
Même par accident, nous sommes aidants. Ça peut arriver n'importe quand.
Un autre regard, c'est ce qu'on attend.
Des hommes, des femmes, le cœur aidant.
Partagez le bon, le mauvais.
On se comprend sans même se parler.
Mon chemin désormais c'est le tien.
Tu le ferais si c'est moi qui tombais.
Partagez le bon, le mauvais.
On se comprend sans même se parler.
Mon chemin désormais c'est le tien.
Tu le ferais si c'est moi qui tombais.
Vous êtes bien sur Radio Arthas sur le 107. On vient d'écouter une chanson justement qui a été réalisée par des aidants, des aidantes. Mon chemin maintenant c'est le tien. Et nous sommes en plateau avec Joséphine Ponel qui est infirmière à l'espace des aidants.
Bonjour.
Une petite réaction sur ce qu'on vient d'écouter.
Je trouve que c'est une chanson très très réaliste qui reprend très bien le vécu qu'on entend nous des aidants.
Justement, ils disent que ça tombe comme ça du jour au lendemain. On s'attend pas du tout à devenir personne aidante. Est-ce que ce serait possible, commençons par ça, d'anticiper?
Anticiper qu'on va devenir aidant, je ne sais pas, ça reste compliqué parce que c'est quelque chose qui tombe en effet et qu'on ne choisit pas. Après, selon les situations, quand c'est une maladie, on ne choisit pas d'être malade. Donc la personne qui est malade ne choisit pas et puis la personne qui est à côté qui devient aidante ne choisit pas non plus. Après, pour certaines situations, quand c'est de la dépendance qui s'installe petit à petit à cause de l'âge et pas forcément de la maladie, c'est des choses dont on peut parler davantage pour que les aidants, petit à petit, puissent se préparer ou savoir un peu anticiper dans ce sens-là sur des choses naturelles de la vie quand on avance dans l'âge.
La réponse à la prochaine question peut paraître simple, logique, mais il n'y a pas de question stupide. C'est quoi être aidant, finalement?
Oui. Alors, être aidant, c'est vraiment, ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment apporter une aide à un proche, quelle que soit sa forme. Ça peut être vraiment être aidant au quotidien, jour et nuit, vivre avec quelqu'un qui a besoin d'aide parce qu'il est dépendant, ou physiquement, ou parce qu'il a perdu des capacités cognitives et qu'il a besoin de quelqu'un en permanence. Ou ça peut être apporter son aide à quelqu'un sans vivre avec cette personne. Ça peut être aider un voisin régulièrement à faire les courses, ou apporter une aide au niveau administratif, aider à faire des papiers, aider financièrement, aider au niveau du transport, aider par une écoute et un soutien moral, psychologique. Ça peut vraiment prendre énormément de formes.
Alors on pense aidant, ça concerne donc des personnes qui aident des personnes en perte de mobilité ou atteintes de maladies neuronales dégénératives type Alzheimer. Est-ce que ça concerne aussi des personnes qui aident des malades atteints de cancer ou des maladies de ce type?
Oui, alors les aidants, donc c'est vraiment de toute personne qui a besoin d'aide. Nous, sur l'espace des aidants en Lozère, on accompagne vraiment les aidants de personnes âgées en perte d'autonomie ou de personnes qui ont des maladies neuroévolutives. Donc on dit maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose en plaques. On sait qu'il y a plein de maladies aussi qui ne sont pas diagnostiquées, parce qu'il n'y a pas beaucoup en Lozère et ailleurs aussi, hein, de neurologues et de spécialistes. À partir du moment où une personne a des troubles de la mémoire, etc., et qu'on est aidant de cette personne, nous, à l'espace des aidants, on peut vous accompagner.
La plus grande difficulté, peut-être, hein, c'est qu'au final, les aidants s'oublient, ne pensent pas à eux. Donc c'est vrai ça, et est-ce qu'il y en a d'autres, des difficultés qu'elles peuvent rencontrer ces personnes ?
Il y en a plusieurs. C'est vrai que les aidants font passer la personne qu'ils aident avant eux, souvent. Une des autres difficultés principales, c'est l'isolement, peut-être le repli sur la cellule, le binôme aidant aidé, l'isolement et l'épuisement qui arrive du fait d'être isolé, d'être moins entouré et puis de gérer énormément de choses seul pour au moins deux. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a des freins justement qui les empêchent de s'exprimer ? La pudeur, la peur de déranger, c'est ce genre de sentiment qu'il ou elle vous disent souvent ?
Oui, la pudeur, la peur de déranger, et puis des fois la peur imaginée ou pas, ou réelle, des autres sur une maladie. Quand on a un proche qui est malade, on a dit les maladies neuroévolutives, mais évidemment les cancers, etc. aussi. Hein. Ça peut faire peur aux gens, ça peut faire peur à la famille, aux amis. On est pudique, la personne malade est pudique, ne veut pas forcément montrer ses douleurs, ses inquiétudes, ses faiblesses. Et du coup, reste vraiment avec son proche, on n'en parle pas forcément beaucoup. Et on a plus de difficultés à se faire soutenir. C'est même pas à se faire aider, c'est vraiment à être soutenu. Les aidants, on les compare souvent à des super-héros. Ils ont plein de ressources, ils ont des capacités incroyables, ils font énormément pour leurs proches. Et nous, on est là pour leur dire aussi qu'ils sont, ils sont pleins de ressources et qu'ils ont le droit aussi d'être accompagnés, d'être soutenus. Nous, on est là pour eux, pour les écouter, pour les soutenir et aussi pour leur proposer des activités, des moments agréables pour leur faire savoir s'ils l'ont oublié, qu'ils ont le droit d'être aidants, mais de continuer à être quelqu'un qui a une vie personnelle et qu'on peut trouver des ressources pour que quelqu'un vienne s'occuper de leurs proches et qu'eux puissent continuer à avoir des petits moments agréables de sortie, de voir leurs amis, leur famille, d'aller au cinéma, d'aller marcher, de faire des choses qui sont importantes dans la vie pour quelqu'un.
Ouais, et puis éviter aussi peut-être de tomber dans des dépressions ou vraiment des choses absolument terribles finalement et qu'elles même deviennent malades entre guillemets.
Oui, c'est aussi un souci, c'est que les aidants font tellement passer leurs proches en premier qu'ils oublient aussi un peu leur santé, leurs rendez-vous médicaux, leur propre morale et que ça arrive que les aidants tombent malades tombent malades ou décèdent avant leurs proches parce qu'ils ne s'occupent pas toujours assez d'eux. Donc c'est important de prendre que nous on soit là aussi pour prendre soin de leur santé et leur faire prendre conscience qu'il faut aussi essayer de s'entourer et se faire accompagner.
Vous parliez de droits tout à l'heure en introduction. Ben justement, quels sont les droits des aidants ?
Alors, les droits des aidants, ça va être un résumé. Il faut vraiment aller les chercher, les creuser. Il y a quelques droits au congé de proche aidant. Quand on accompagne un proche, on a des possibilités de prendre un congé. Alors, c'est limité dans le temps. C'est en général 3 mois. Je m'avance pas trop sur ces droits-là parce que c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Il y a des nouvelles lois qui sont en réflexion là-dessus pour que justement il y ait davantage de droits et de congés et de rémunération quand on est proche aidant. Il y a aussi, selon les situations, c'est vraiment au cas par cas ou presque, des possibilités d'être rémunéré en tant que proche aidant. Voilà, quand on arrête ou partiellement ou complètement son activité pour aider quelqu'un de sa famille, il y a quelques possibilités d'avoir une petite rémunération.
Ouais, ça doit pas être énorme, je suppose. Mais, bon. Mais on va quand même dans le bon sens. Vous voyez l'évolution ? Est-ce que ça avance bien ? Ou alors est-ce que...
Ça avance doucement, on en parle énormément. Ce qui est très positif, c'est que justement on parle des aidants et le gouvernement prend en compte que pour que les personnes malades ou dépendantes puissent rester à la maison dans de bonnes conditions, il y a besoin de ces aidants et du coup il y a besoin que ces aidants soient en forme pour continuer à s'occuper de leurs proches. Donc il faut donner la possibilité aux aidants d'être en forme, de s'en sortir financièrement aussi, hein, quand on arrête de travailler. Voilà, il faut avoir la possibilité de rester auprès de son proche. Donc ce qui est positif, c'est qu'on en parle.
Et puis on parlera tout à l'heure des ateliers que vous allez proposer à partir de mi-janvier. Votre plateforme, elle s'intitule « Plateforme d'accompagnement et de répit de Lozère ». Comment concrètement ça se passe quand une personne arrive et pousse votre porte ?
Alors nous, on est trois. Moi, je suis Joséphine, l'infirmière de l'espace des aidants. J'ai une collègue, Fanny Bréard, qui est psychologue, et une autre collègue, Sylvie Verdusier, qui est coordinatrice. Nous, quand un aidant pousse notre porte, on essaye vraiment de faire un point sur sa situation pour voir de quoi il a besoin. Tous les aidants n'ont pas besoin de la même chose. Donc nous, voilà, on est là pour faire un petit bilan sur qu'est-ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien et ce qu'on peut apporter. On est là donc pour tout ce qui est accompagnement individuel de l'aidant. Ça peut être au niveau administratif ou au niveau de la mise en place des aides, faire des dossiers, mettre en place des aides à domicile via tout ce qui existe déjà. On n'est pas là pour remplacer ce qui existe déjà, les dossiers APA pour l'autonomie, etc. Vraiment pour accompagner individuellement la personne qui vient nous rencontrer. Et puis après, proposer aussi voilà, un soutien psychologique grâce à Fanny qui est psychologue pour ceux qui en ont besoin. Ou proposer des activités collectives pour que les aidants puissent aussi, comme je vous disais tout à l'heure, passer de bons moments et puis rencontrer d'autres aidants. On parlait de l'isolement des aidants. Là, c'est vraiment aussi proposer des temps de rencontre. La pause café des aidants, c'est vraiment un temps qui est convivial où voilà, on partage sur son vécu d'aidant et on se rend compte aussi que ben, on n'est pas tout seul à être aidant et qu'il y a des problématiques qui sont rencontrées par d'autres personnes qu'on peut partager là-dessus.
Dans la plaquette que vous proposez, il y a différents mots-clés, vous en avez déjà utilisé, bienveillance, partage, échange, solution ou encore la notion d'autonomie. Mais il y a aussi prévention. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Parce qu'on l'associe souvent à prévention routière, à l'alcool, à la drogue, que sais-je encore. En quoi vous faites de la prévention ?
Alors la prévention, on va essayer de le développer de plus en plus, c'est vraiment justement faire prendre conscience aux aidants qu'ils sont aidants et qu'ils ont plein de ressources, il y a plein de situations d'accord. dans lesquelles ça se passe relativement bien, la personne est aidante et il y a un équilibre qui est trouvé à la maison. Le but de la prévention, ça va vraiment être de mettre en place le maximum de choses possibles pour que la situation reste sereine à la maison et que tant que ça se passe bien, bah, tout le monde puisse profiter du fait que ça se passe bien. Donc, mettre en place des aides petit à petit pour pas qu'on arrive à une situation en fait d'urgence où il y a un problème et où il faut passer sur des choses, prendre des décisions plus vite dans l'urgence. Faire tous les dossiers possibles en amont, ça peut être des dossiers de prévention pour une demande en établissement, des séjours d'accueil en hébergement temporaire, vraiment prendre soin de cette situation qui va bien pour que ça devienne pérenne, une situation qui reste stable et acceptable pour tout le monde.
Alors ce qui est génial, c'est que vous proposez, vous l'avez dit, des heures de temps libéré. Oui. Donc ça veut dire que c'est vous ou vos collègues qui allez chez la personne aidante. Ou alors est-ce que c'est des bénévoles ? Comment ça se passe ?
Alors c'est pas nous directement, c'est pas des bénévoles. On travaille avec les services d'aide à domicile du département. Il y a 4 services d'aide à domicile sur la Lozère. Et nous, on travaille avec ces 4 services-là pour que justement sur ces prestations de temps libéré, il y ait des aides à domicile ou des auxiliaires de vie qui sont formés, qui aillent prendre le relais de l'aidant. Vraiment, c'est qu'il y ait un temps de transmission de tuilage entre l'aidant et cette aide à domicile pour que vraiment la personne malade qui a besoin d'être d'une présence et l'accompagnement le plus adapté possible de l'aide à domicile et que l'aidant puisse justement sortir. Alors quand on dit du temps libéré, ça peut être pour aller à un rendez-vous médical parce qu'il faut aussi du temps pour prendre soin de sa santé, comme ça peut être pour aller à une activité, pour aller à une randonnée, pour aller à une réunion de famille. Il n'y a vraiment pas de critères. C'est vraiment pour que l'aidant ait du temps à passer pour lui ou pour sa santé, pour un bon moment. Et tout en sachant que son proche va bien, qu'il y a quelqu'un avec son proche à la maison et qui peut partir tranquillement.
Sérénité, c'est dans les mots clés aussi. Justement, là, il n'y a pas besoin de justification.
Alors, pour le temps libéré, il n'y a pas besoin de justification. Ouais. La seule exigence, c'est qu'en fait, il y a une communauté de vie entre l'aidant et la personne qui l'aide. Parce que c'est vraiment l'idée de l'aidant doit être auprès de son proche et il faut remplacer l'aidant pour qu'il puisse sortir. Quand il n'y a pas de communauté de vie, on sait que c'est aussi parfois difficile pour les aidants. Mais voilà, c'est le seul critère pour ce temps libéré.
C'est peut-être une question de moyens aussi.
L'enveloppe, oui.
On est d'accord. Hein.
Alors le temps libéré, en plus je ne l'ai pas précisé, c'est une prestation qui est gratuite pour les aidants. Donc il y a une enveloppe de 36 heures par an par aidant. Donc 36 heures, c'est certes pas un nombre d'heures illimité, mais ça permet voilà, de vraiment répartir sur l'année quelques périodes, sachant que c'est au moins une heure et demie par intervention et qu'on peut aussi prévoir des temps de 3 heures. Ça nous est arrivé de prévoir 5 heures, 6 heures à la suite avec un ou plusieurs intervenants pour que les dents puissent partir éventuellement toute une journée.
Vos locaux sont situés en face des archives à Mende, me semble-t-il.
Oui, c'est ça.
Donc c'est pas très loin de la mairie. C'est ouvert tous les jours sur rendez-vous de 9h à 17h et le lundi jusqu'à 19h si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Et je donnerai tous vos contacts et on les mettra sur notre site dans un instant. Alors vous avez proposé une série d'ateliers à Mende et à Aumont, si je ne m'abuse aussi, c'était l'année dernière, en fin d'année. Ces ateliers arrivent à Florac. Juste avant d'en parler, est-ce que vous avez des permanences à Florac de temps en temps ?
Alors en fait, on n'a pas de permanence sur Florac. On a nos locaux qui sont à Mende, comme vous venez de le dire. Et puis après, on se déplace. Donc là, on a été, voilà, comme pour les ateliers sur Aumont, ça nous arrive de faire de prendre des rendez-vous en fait avec les aidants pour se rapprocher. Donc on fait pas de permanence, mais voilà, on prend rendez-vous avec les aidants sur les mairies, sur les espaces France Service, avec les partenaires avec lesquels on travaille, pour se rapprocher des aidants, qu'ils aient pas le trajet à faire eux jusqu'à Mende, parce qu'on sait que la Lozère est grande et que les trajets sont longs. Donc voilà, on se rapproche et on fait. Voilà, sous forme de rendez-vous, pas de permanence, mais à Florac, à Saint-Chély, à la Canourgue, voilà, on essaye de se rapprocher des aidants.
Les ateliers arrivent à Florac à partir du 18 janvier, donc il y en aura 5. Ça va être quoi les objectifs de ces ateliers ?
Alors les objectifs de ces ateliers, c'est vraiment pour les aidants, donc déjà sur ces 5 séances, que les aidants puissent passer un bon moment, c'est 2h15 d'atelier par semaine, c'est vraiment passer un bon moment, se relaxer, se détendre, et puis apprendre ou réapprendre les quelques bases sur les émotions, sur comment gérer son stress, et puis sur comment essayer de retrouver des moments de bien-être à la maison dans le quotidien. Donc c'est vraiment des ateliers à chaque fois il y a un thème par séance, bien dans mon corps, bien dans ma tête, gérer ses émotions, il y a de la découverte de la sophrologie, il y a de la découverte de la gymnastique bien-être. Et puis, c'est vraiment trouver les méthodes qu'on peut utiliser à la maison après pour que ce soit, que ce soit pas juste 2 heures d'atelier où on passe un bon moment, mais que ce soit 2h15 d'atelier qu'on peut réutiliser au quotidien à la maison en se disant « Ah bah oui, là, on a vu ça, c'est quelque chose que je savais ou que j'ai découvert, mais que je peux remettre en pratique à la maison pour passer des petits moments, trouver les moments et puis savoir comment rentabiliser entre guillemets ces moments pour en retirer du bien-être à la maison au quotidien.
Alors il y en aura 5, on peut les détailler, juste dire, la première séance, ça commencera par bien dans mon corps, bien dans ma tête.
Oui, c'est ça. Bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et puis on reprend vraiment des bases de des piliers de la santé. Qu'est-ce que c'est les piliers de la santé et comment on fait pour repérer, parce que pour essayer d'avoir un impact sur son bien-être, il faut repérer ce qui nous apporte du bien-être. Donc c'est vraiment au fur et à mesure repérer. Qu'est-ce qui est important ? Ça peut être au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, de l'activité intellectuelle. C'est vraiment des choses, si on les repère, on peut agir dessus. Alors que si on ne met pas le doigt dessus, c'est plus compliqué.
C'est sûr. Ça aura lieu le 18 janvier. Le deuxième, c'est la gestion du stress et de ses émotions. Évidemment, là, c'est quelque chose d'important pour les aidants et les aidantes.
Oui, alors c'est important pour tout le monde et c'est encore plus pour les aidants et les aidantes, je crois. C'est vraiment sur le même principe, connaître et reconnaître ses émotions, repérer les situations de stress, parce qu'on n'est pas tous stressés par la même chose. Hein. Il y a des choses qui vont beaucoup stresser quelqu'un et pas du tout quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment essayer de reconnaître ses émotions, de reconnaître les situations qui apportent du stress et justement les méthodes pour anticiper et essayer d'éviter ces situations de stress ou de les gérer au mieux.
25 janvier et le 1er février, on en a parlé évidemment, retisser du lien social et de la communication bienveillante.
Oui, alors l'importance de la communication, d'être entouré et d'avoir du lien social, c'est primordial, c'est pareil, c'est primordial pour tout le monde et c'est primordial pour les aidants qui sont trop souvent isolés et pas assez entourés. Et puis il y en a qui le disent même, voilà, à l'annonce d'une maladie, les proches, que ce soit la famille ou les amis, peuvent parfois s'éloigner. Donc c'est difficile, c'est notre entourage proche qui s'éloigne. L'importance du lien social, il est primordial. Et là, le fait aussi de rencontrer d'autres aidants, c'est important. Ça permet de partager des choses que d'autres personnes ne comprennent pas, qu'on ne comprend
que quand on le vit. C'est sûr. Ouais, mettre des mots aussi sur quelque chose d'assez tragique parfois, c'est quand même super important. La quatrième séance, ce sera le 8 février et là, mes ressources personnelles sont sur le territoire. Donc ça, ça se marquait gym bien-être après, expliquez-nous
un peu. Oui, alors en fait, mes ressources personnelles, c'est vraiment justement savoir, on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes compétences, les mêmes inquiétudes. Donc c'est vraiment essayer de cerner ses propres ressources et puis après de donner aussi les ressources qu'il y a sur le territoire. La gym bien-être, en fait, on travaille sur cette séance avec l'EPGV, la gymnastique volontaire sur le département, qui va venir faire un cours de gym bien-être. Et puis après, c'est aussi donner les ressources en termes de cours, alors de l'EPGV ou d'autres choses. Hein, on donne vraiment les ressources qu'il existe sur la Lozère. Il y a aussi l'association Ciel Bleu. Ciel Bleu avec un S au début de ciel, sinon on ne sait pas de quoi ça s'agit, qui propose de l'activité physique adaptée. C'est vraiment donner les ressources qu'il existe sur le département au plus proche des personnes, donc là sur le bassin de vie de Florac, de ce qui est possible de faire, parce que l'atelier, voilà, c'est une séance, mais l'idée c'est aussi de pouvoir trouver des ressources proches de chez soi pour pouvoir continuer ces moments de bien-être.
Tout à fait tout compris, c'est bien. Les engagements pour la suite, ça finira par ça, c'est-à-dire là on parle d'avenir.
Alors on parle d'avenir et puis on parle de continuer à profiter des bénéfices et de ce que peuvent apporter ces ateliers sur le long terme, au quotidien, à la maison. C'est vraiment, on fait de la sophrologie sur la dernière séance. Et pareil, le but, c'est pas forcément de donner à tout le monde envie de faire de la sophrologie tout le temps, parce que ça correspond pas à tout le monde, mais c'est trouver les solutions qu'on peut réutiliser au quotidien pour que le bien-être continue après les 5 séances d'atelier.
Précisons que c'est mieux de participer aux 5 séances autant que faire se peut.
Oui, voilà, dans l'idéal, c'est vraiment, il y a une cohérence dans la construction des 5 séances, donc bon, on sait qu'il y a des imprévus et que les aidants, des fois, il y a ou une date de rendez-vous médical, ou des fois un imprévu le matin même, finalement, c'est pas possible, on peut pas se libérer. C'est des choses qu'on comprend tout à fait. Mais là, c'est vrai que les ateliers sont construits pour participer aux 5 séances, dans la mesure du possible. Après, on précise bien que, on a conscience que les aidants ont des imprévus et que s'il y a un imprévu et une séance à laquelle on participe pas, il n'y a rien de dramatique.
Sachez, aidants et aidantes, évidemment que vous organisez un accueil pour les personnes que les aidants accompagnent. Hein, et ça, ce sera à la salle déjà, je crois.
Oui, c'est ça. C'est ça, parce que c'est important aussi de laisser la possibilité aux aidants de venir. Et quand ils sont à la maison avec quelqu'un qui ne peut pas rester tout seul, c'est bien de leur proposer des ateliers. Mais c'est bien de proposer aussi un accueil pour leurs proches. Donc voilà, pour ceux qui peuvent se déplacer, on propose un accueil pour le proche, pareil, avec une aide à domicile qui propose, ou un temps de repos pour ceux qui ont besoin de se reposer l'après-midi, ou un temps d'activité adaptée. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a la prestation de temps libéré. Pour les proches qui ne peuvent plus sortir de leur domicile, voilà, on peut organiser du temps libéré pour que vous puissiez quand même vous rendre à l'atelier.
Je mettrai toutes les dates et tous vos contacts sur notre site dans un instant. Sachez évidemment, auditeurs, auditrices, que les ateliers sont gratuits.
Oui.
Alors, pour vous contacter, c'est pfr48@orange.fr, c'est tout simple. Et le numéro pro 06 47 16 03 59. Merci beaucoup, Joséphine.
Merci à vous.
Joséphine Ponel, infirmière inspiratrice, j'allais dire, mais oui, pourquoi pas. Infirmière à l'espace des aidants de Mende. Allez, dans un instant... samedi, c'était l'inauguration du stade de Florac qui s'est transformé en hommage à Patrick Labeaume, figure emblématique du foot floracois. Le stade portera d'ailleurs son nom. On écoute ça juste après. Bah oui, puisque je pensais aux aidants et aux aidantes, j'ai mis Simply the Best parce que c'est vraiment des gens géniaux. Merci beaucoup, Joséphine, et à bientôt.
À bientôt.
Samedi, c'était l'inauguration du stade de Florac et j'y étais. On commence par écouter le discours de Flore Théron, qui est maire de Florac.
Bienvenue ici à Florac Trois-Rivières. Mais ici, nous ne sommes pas sur le territoire de la commune, nous sommes sur le territoire de la communauté de communes. Donc, bienvenue à tous. Enfin, je dirais enfin, nous avons aujourd'hui la joie d'inaugurer ce magnifique équipement qui a été une réalisation vraiment exceptionnelle au regard du temps qu'il a fallu pour le réaliser, un temps très court au regard d'un chantier habituel. Et pour la plus grande joie des enfants, des grands, des collégiens et de tous ceux qui, au-delà de notre commune, fréquentent ce magnifique équipement pour à la fois concourir, mais aussi passer des moments de convivialité. Car si cette année, c'est l'année 2024, donc année olympique en France, personnellement, je crois que ce qui est important, c'est vraiment tout ce qui se fait dans les clubs. Et je crois que la présidente le dira, nous sommes un petit département, mais certainement un des plus sportifs de France. Et c'est ce sport, le sport pour tous, et pas le sport de haut niveau, qui est autre chose, qui est important pour nos communes et pour le lien social. Alors bravo à tous ceux qui s'en occupent, bravo à ceux qui ont pris cette initiative de faire cette belle réalisation. Et puis bientôt, d'ailleurs, il y aura un tout petit complément à ce beau équipement, à ce bel équipement. Un petit peu derrière, il y aura un City Park qui devrait être terminé à la fin du mois de janvier. Donc nos gamins, nos jeunes, ils seront, je crois, aussi contents d'avoir cet équipement à leur disposition. Bonne journée à tous. Et maintenant, je donne la parole à qui de droit ?
Henri Coudert, président de la Comcom Gorjko-Seven.
Alors, monsieur le préfet, madame la sénatrice, madame la présidente du conseil départemental, madame la maire de Florac-Trois-Rivières, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des services déconcentrés de l'État, des forces civiles et militaires, chacun à vos grades et qualités, mesdames, messieurs les artisans, commerçants, acteurs économiques locaux, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous de la bienvenue au stade communautaire de Florac Trois-Rivières, équipement structurant du territoire de la communauté de communes Gorjko-Cévennes. Je tiens en premier lieu à vous adresser, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, mes voeux les plus sincères, que je veux synonymes de belles et heureuses années 2024, qu'elles soient empreintes de santé, de joie, de bonheur, de réussite et de paix. Je dois excuser M. Pierre Morel, député de la Lozère, Mme Carole Delga, présidente du conseil régional, et M. Stéphane Morin, président du Parc national des Cévennes, mais aussi maire de la commune du Pont de Montvert, sud Mont-Lozère. Alors on reconnaît tous cette période de l'année comme propice à l'adoption de bonnes résolutions. Ces engagements aux vertus certainement exceptionnelles, mais qu'on abandonne cependant, parfois, au bout de quelques jours seulement, tant les challenges fixés peuvent finalement nous apparaître insurmontables. Pour ma part, j'ai bien quelques idées de bonnes résolutions à adopter en ce début d'année. La première, celle d'inaugurer le stade communautaire qui nous réunit aujourd'hui. En effet, les aléas sanitaires, puis les difficultés d'agenda des uns et des autres, nous ont conduit plusieurs fois à reporter l'événement. Je tiens à m'en excuser auprès de la famille Labaume, au nom de toutes les autorités impliquées dans ce projet. Vous le savez, le rôle de l'intercommunalité est de conduire à plusieurs des projets comme que les communes membres n'auraient pas les moyens ou les capacités de mener seules dans les domaines des compétences dévolues par l'État ou transférées à la discrétion des communes. Notre comité de communes a, à ce titre, réalisé ici, à Florac, le bâtiment qui accueille l'atelier de confection Tuféry, la maison du tourisme du parc national des Cévennes, l'extension et la mise en conformité de la crèche Les Castors Juniors. Bientôt, nous intégrerons le siège de la communauté quand les travaux de réaménagement de l'ancien hôtel Rochefort seront terminés. Elle a aussi conduit l'extension de Via Ferrata à Rousse, de requalification de l'ensemble des sentiers de randonnée dans le territoire, la réhabilitation du bureau d'information tourisme de la Malène, réfléchit aussi actuellement à la restructuration de l'atelier viniviticole d'Ispagnac. Ça passe ici le téléphone. Ainsi que de nombreux dossiers d'aide aux entreprises en partenariat avec le conseil départemental. Également compétente en matière d'équipements sportifs structurants, nous avons initié en 2017 une réflexion avec l'appui de la mission conduite par les services du conseil départemental en vue d'établir un diagnostic, puis de déterminer les équipements structurants nécessaires sur le territoire qui pourraient être portés par l'intercommunalité. Un bassin aquarécréatif, stade de football, cours de tennis couvert, boulot d'homme couvert, dojo, etc. Face aux priorités politiques communautaires arrêtées, mais surtout en raison de la crise économique qui a largement et durablement affaibli les capacités financières des collectivités locales, les actions relatives aux solidarités territoriales, au tourisme, au sport de pleine nature, voire encore à l'économie, ont tout d'abord été privilégiées. Ainsi que les nouveaux projets structurants s'y rapprochant et s'y rapportant. Le projet de réfection du stade municipal a donc dû attendre. Le projet d'aménagement du stade de Florac Trois-Rivières a donc été relancé, activement défendu par les dirigeants du club, Stéphane Morin, Jérôme Brieux ou Jérôme Perry, pour ne citer qu'eux. En liaison avec la création de la section sportive à la rentrée 2019 au collège des Trois-Vallées. Voilà un exemple vertueux de ce que peut apporter la coopération intercommunale lorsque les acteurs locaux dépassent les approches de clocher pour se fédérer et œuvrer en commun dans l'intérêt général, au profit de nos jeunes et de la vie locale. Je remercie à ce titre les dirigeants fondateurs du club Sud-Lozère et les maires de les communes d'Ispagnac, de Florac et du pont de Montvert, Sud-Mont-Lozère. Ce cadre partenarial privilégié a permis d'élaborer un projet à la fois ambitieux et innovant. Son originalité, la pelouse synthétique. Et là, qu'avons-nous entendu ? Que nous étions des irresponsables ? Quelle idée dans un cadre naturel et préservé comme celui de notre territoire ? Seulement, mesdames, messieurs, cette technique demeure la seule réellement adaptée à une utilisation intensive du terrain par les quelques 200 licenciés du club, les centaines d'élèves des établissements scolaires environnants, les compétitions et accueil de manifestations sportives. Une vigilance particulière a cependant été apportée à son innocuité en retenant un garnissage naturel à base de liège. Confié à l'équipe Colas, Bonnet-Tessier, AB Travaux Service et Laquais, animé par Violaine Martin, chef du service communautaire cadre, l'opération a connu les aléas sanitaires liés à la pandémie de Covid-19, mais a finalement pu être réceptionnée en mai 2021. L'équipement ravit les joueurs qui disposent enfin d'un terrain de jeu à hauteur de leur ambition sportive. Il sert largement les desseins de la section sportive du collège des Trois-Vallées, participe à la renovée de cet établissement et au soutien de son internat. Ce stade apparaît donc comme une réalisation communautaire particulièrement réussie. Il répond en effet à la fois aux exigences statutaires communautaires et aux attentes des usagers, tout en respectant les prérequis liés à l'indispensable rationalisation budgétaire. D'un coût total de 726 500 hors taxes, il a été largement soutenu par l'État à la hauteur de 38%, le département 21%, la région 20%. Le recours à la pelouse synthétique exonère toute utilisation phytosanitaire polluante pour le milieu naturel et aquatique. Solution qui a également séduit un partenaire privé local, le groupe Augeux, exploitant la source d'Iva, d'où jaillit l'eau de Quézac, qui a également apporté une dotation financière. Le football et le sport collectif en général, est porteur de valeurs fortes, comme le respect, l'engagement, la tolérance et la solidarité. Elles sont inculquées par des éducateurs sportifs ou des professeurs. Patrick Labeaume, notre Pitou, figure floracoise emblématique à plusieurs titres, a principalement défendu et porté haut ses couleurs et ses principes en tant que joueur, puis en tant que dirigeant du club, ne mélangeant pas son énergie, étant toujours sur le terrain, prodiguant ses conseils avisés aux jeunes joueurs, apportant son expérience aux seniors. Il nous a quittés trop tôt, en mai 2021, à l'aube de sa retraite. Alors malgré sa pudeur et sa discrétion à tout ce qui est décoration ou honneur, et avec l'accord de sa famille, que je remercie encore une fois, les élus communautaires ont unanimement décidé de donner son nom à ce stade. Soyez fiers de défendre ces valeurs dans l'exercice de fonctions éducatives ou tout simplement dans vos pratiques sportives. Vous contribuerez à perpétuer sa mémoire. Tel est le message que le conseil communautaire souhaitait vous faire passer. Et maintenant, je vais passer la parole à Stéphane, le fils de Patrick.
Mesdames, Messieurs, au nom de la famille Labeaume, nous tenons à vous remercier. Nicole, sa maman, Fabienne, sa sœur, Geneviève, sa femme, Mathieu et moi-même, ses fils, de cette marque de reconnaissance envers papa à travers cette nomination du stade communautaire en son nom. Nous remercions les élus de la communauté de communes Gorges-Causses-Cévennes d'avoir pensé et proposé cette idée à notre famille afin de faire perdurer la mémoire de Pitou. Par son engagement pendant plus de 40 ans au sein du club de football local, il a pu transmettre ses valeurs de vie à la jeunesse en tant qu'éducateur de diverses catégories et aussi en tant que dirigeant accompagnateur de seniors pendant de nombreuses saisons. Homme discret, mais toujours prêt à donner de son temps pour sa passion du football et promouvoir les valeurs qui lui étaient chères, comme le respect, l'engagement, le partage et le dépassement de soi. Ce nouveau stade permet aujourd'hui aux jeunes du bassin de vie de pratiquer dans d'excellentes conditions leur sport chaque semaine et ainsi d'améliorer leur technique par la qualité de cette pelouse synthétique. Je réduis un peu mon discours parce qu'Henri a dit vraiment de belles choses. Juste, quel beau stade, quel honneur pour notre famille. On pense à toi, papa. Merci à tous.
JF, président du club de Florac.
Bon, alors, moi, donc, je suis le président que depuis 2 ans. Et donc, c'est donc à moi que revient la lourde tâche d'inaugurer ce magnifique stade synthétique, tant espéré et enfin réalisé. Mais vraiment, je vous l'avoue, je m'en serais bien passé. Pourtant, la réalisation, elle est à la hauteur de nos envies. Les conditions pour jouer au foot sont idéales et permettent à l'ensemble des équipes de pratiquer un football de qualité. Bon, même si en ce moment les deux équipes seniors sont un peu en difficulté, la saison n'est pas terminée, donc les gars, on va se bouger. Pour le pit, hein. Pourtant, ce terrain a aussi permis de concrétiser la création d'une section sportive au sein du collège des Trois-Vallées de Florac, grâce à l'engagement de personnes motivées et visionnaires. On les a cités, il y a Stéphane, il y a Jérôme, Précieux, Stéphane, Giovanni, Stéphane Morin, Giovanni. Voilà, tous ces gens vraiment qui ont œuvré pour ce terrain. La qualité de l'enceinte sportive participe aux dynamiques locales et accueille des groupes, des clubs, dans le cadre de leur préparation. Alors, je viens de rajouter ça tout à l'heure, parce que je voulais le mettre, et je le dis sans esprit polémique, ni sans rien du tout. Je pense qu'une petite concertation supplémentaire avec le club aurait été judicieuse, notamment dans l'aménagement de la tribune qui est là, qui est pratiquement inutile. Et notre buvette à nous, où on va passer 30 ans sans voir les matchs, en tournant le dos au terrain. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas réussi à se concerter un peu plus. Mais j'ai au fond de moi une infinie tristesse. En me souvenant de Pitou et en repensant à toutes les années passées autour de l'ancienne pelouse, à refaire les matchs, maudire les fourbons et excuser les joueurs. Merci à Henri et à son équipe d'avoir proposé d'appeler le stade communautaire Patrick Labeaume. Et forcément, quand on passera sur la 106, eh ben on va le voir, hein. On va avoir des moments, des souvenirs émus. Et quelle fierté ce sera pour tes petits-enfants, mon Pete, quand on dira « Mais qui était ce Patrick Labeaume ?» Et vous répondrez « C'était notre grand-père. » Mais j'ai des boules. J'aurais vraiment sûrement préféré trinquer avec toi en me souvenant d'un autre. Je sais que ta discrétion et ton humilité sont mises à rude épreuve, mais ce n'est que justice. Ton engagement, ta disponibilité et ta gentillesse resteront à jamais gravés dans le mémoire et dans le marbre. Salut mon Pitou.
Et voilà pour l'inauguration du stade de Florac. Nous a rejoint, vous êtes bien sur Barthas, nous a rejoint au plateau. Lauriane, bonjour.
Bonjour.
Eh ben, tu vas nous accompagner une petite semaine là, en stage, hein, c'est ça?
C'est ça.
Eh ben, bienvenue à toi, tu viens d'où?
Je viens de pas très loin, je viens de Quézac, qui est à côté du Spagnac. Donc,
Tu connais bien le territoire, quoi?
Je connais bien le territoire.
Qu'est-ce qui t'amène en stage à la radio?
J'avais un peu de temps devant moi pour faire des stages. Et la radio, je me suis dit, ça peut être cool comme univers, ça pourrait me plaire. Du coup, autant venir découvrir. Et je connaissais Radio Barthas, et voilà.
Eh bien, écoute, en tout cas, bienvenue. On a plein de choses à te faire faire, il n'y a pas de souci. Ça va être bien cette semaine. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi à partir de 8h30 précise, n'est-ce pas, mon Léo?
Bah oui, carrément, je serai là bien réveillé le matin, comme toujours.
Comme toujours, effectivement, merci beaucoup à toi, merci à toutes et tous de nous suivre. Mercredi, nous serons avec l'équipe de la Gaule, le groupement des œuvres liquides qui reprend du service et c'est trop cool. On sera aussi avec Léo Martin de la SICTOM qui nous expliquera entre autres la politique de gestion des déchets ici sur la communauté de communes, qui nous parlera également de compost. Voilà, merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sur Barthas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec Queen of the Stone Age. À mercredi, prenez soin de vous, ciao.